Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Toujours depuis ce mi-ivre, mi-raisin, Salon des Vins Nature, deuxième édition, 9 juillet, au 115 du Chemin des Cerisiers, avec Mathieu Léonard. Toi, ton vin, il s'appelle Potlatch. Raconte-nous l'histoire de ce vin nature.
Alors, moi, en fait, j'ai la chance en fait, d'avoir un ami qui était vigneron, dont le père était vigneron à Rasteau aussi, donc qui a baigné dans le vin depuis toujours, et qui faisait déjà, il y a une quinzaine d'années, un vin que je trouve exceptionnel, atypique, donc sur les terroirs de Rasteau, un vin...
Dans le Vaucluse.
Dans le Vaucluse, ouais. Un vin fait un peu dans la rusticité, mais sans tricherie, vraiment avec une sincérité... que j'aimais beaucoup et
déjà en bio, déjà en nature.
Ouais, il s'est intéressé dès le début, au même temps que des gens comme Marcel Richaud qui est pas loin à Kéran, ou etc. Qui donc il était en nature mais il commercialisait pas, et puis là bon il est parti en retraite et il a mis des parcelles en fermage, et donc par amitié, comme ça, il m'a dit bon bah lance-toi si t'as envie de faire ça. Donc j'ai la chance d'avoir cette transmission là, d'avoir son coup de main, et puis
avec déjà l'équipement même.
Ouais, avec l'équipement, etc. Donc c'est une installation douce.
Donc la cave est là, les tracteurs, tout est là.
Voilà, j'ai tout ça. Et du coup, je me suis lancé en 2019. Voilà. Donc je suis à la troisième millésime en gros quoi. Et puis bah voilà, on fait un seul vin, je le fais encore, il est encore dans la partie, hein, donc il me donne ses conseils et on vinifie ensemble. Donc on fait un seul vin avec un assemblage de grenache majoritaire, hein, ce qui est vraiment typique de Rasteau, ce grenache, avec une belle sucrosité, enfin voilà, qui est reconnaissable. Du Carignan, de la Syrah et du Mourvèdre. Voilà.
Alors, quatre cépages mélangés pour ton rouge.
Voilà, ouais. Macération longue, grappe entière, donc on a un vin comme ça très très caractéristique, un peu épais, et voilà, sans ajout évidemment, enfin voilà, toute nature comme il se doit. Et bah voilà, c'est une expérience qui est ma foi plaisante.
Mais Mathieu, j'ai envie de te demander du coup, tu viens d'où? On a l'impression que c'est, enfin, c'est pas qu'on a pas, on a l'impression, mais on est quasiment sûr que c'était pas ça ton métier avant.
Non, moi je suis un urbain.
Ouais, bah vas-y. Ouais. Et alors, voilà, d'où tu viens pour aller au vin, au-delà du super coup de bol?
Je viens d'expériences diverses et variées, un peu dans l'édition, dans le journalisme. Ouais. J'ai participé pas mal au mensuel CQFD hein, pendant une quinzaine d'années. Donc voilà, j'étais plutôt à Marseille, un peu Paris, tout ça. Mais bon, j'ai des attaches dans le Vaucluse, et c'est ce qui m'a permis de connaître Jean-Claude, et puis c'est quelqu'un aussi qui réfléchit, donc on a eu des attentes crochues assez fortes sur pas mal de choses, sur l'environnement, l'écologie, etc. Des problématiques qui nous naissent à cœur. Et à un moment, voilà, j'en ai un peu marre d'être devant des écrans aussi, j'ai franchi le pas grâce à cette rencontre. Voilà. Et sinon, moi, par ailleurs, j'ai continué aussi à écrire un peu pour CQFD, et puis à écrire sur des sujets qui m'intéressent, historiques notamment. Voilà.
Donc il y a un peu un mélange entre un travail... que je dirais de journaliste ou d'écrivain, ouais. Et ta partie viticulture, vinification.
Ouais, il y a un mélange. Bon, j'essaie de pas m'emmêler les casquettes, mais voilà, il y a quand même une...
Et t'as besoin de l'un et de l'autre pour vivre intégralement, j'allais dire.
Alors,
tu vis de la vinif.
Vivre, ouais. Enfin, moi, j'ai, en tout cas, j'ai ce qui m'a permis de me lancer dans le vin, c'est que j'ai une grande habitude de la précarité.
En tant que bon intermittent journaliste.
Voilà. Donc ça me faisait pas peur en fait. Bon, surtout parce qu'il n'y avait pas un engagement financier très, très, très lourd au départ et que je suis sur des petites parcelles, je suis sur 2 hectares. Donc voilà, je prétends pas avoir un modèle économique, mais en tout cas j'ai un modèle de survie qui me va bien quoi, à ce niveau-là.
Voilà, et puis tu le disais, une transmission douce. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui est un peu essentiel.
Ouais, c'est super important. Je suis très admiratif de tous les gens qui se lancent. Et il y a une dynamique dans la jeunesse autour du vin naturel, etc. Mais bon, moi j'ai 50 balais, donc j'ai eu besoin aussi de savoir-faire, de cette transmission, qu'on me mette un peu le pied à l'étrier aussi. Et voilà, je suis redevable quand même de l'expérience de Jean-Claude Leroux, il faut donner son nom. Et ce qui m'a permis d'entrer dans l'histoire. Quoi.
Parle-nous un peu de la cave.
Alors la cave, c'est une cave que Jean-Claude a construite en béton, donc c'est une espèce de cube avec deux cuves en ciment et puis des cuves en inox. Voilà, c'est une cave qui est fraîche, qui est bien, qui est saine. Donc là aussi, j'ai bénéficié aussi de toutes les levures indigènes qui sont dans cette cave et qui permettent aussi d'élever ce vin quoi, et de lui donner aussi sa typicité. Quoi. Voilà, c'est petit, logistiquement c'est un modèle qui me va bien parce que c'est le temps que je veux bien y consacrer, etc. Donc
C'est-à-dire quel temps?
Je sais pas en termes. J'y consacre pas mal de temps parce que c'est toujours prenant la vigne, etc. Mais voilà, j'ai pas envie de. Enfin voilà, je le fais quand même à ma façon. Bon, voilà.
Mais ça nous intéresse parce que justement là, avec ces différentes interviews, on voit plusieurs modèles et surtout des modèles parfois très prenants.
Ouais.
On a parlé aussi avec les autres invités de quel était le seuil avec le nombre d'hectares avec lequel tu vivais.
Ouais.
Pas l'air pris dans ce truc-là et du coup ça nous intéresse. T'as parlé de précarité tout à l'heure, c'est quand même. Tu serais peut-être exception dans les modèles en te disant je fais aussi ça pour peut-être complètement autre chose que le plaisir ou...
Je fais ça pour le plaisir. Au début, j'étais parti pour faire un vin des amis avec des collègues, etc. Je me suis du coup retrouvé un peu seul avec Jean-Claude, toujours. Mais je voulais pas y investir tout mon temps, etc. Bon, mine de rien, la vigne, le vin, c'est une attention permanente. Et puis, quand tu fais de A à Z, de la taille à la vente, t'as toujours quelque chose à faire en réalité. Mais c'est vrai que moi, je sais pas parler des choses économiques. Je suis un peu très mauvais à ça. Puis il faut du temps aussi pour s'installer, pour avoir... Donc moi, pour l'instant, bon, je sais pas, je veux pas faire de poésie, mais c'est un cadeau pour moi, ce que je fais en ce moment. Voilà. Même si financièrement, c'est pas non plus... c'est pas une source de revenus très, très mirobolante, quoi. Mais en tout cas, ça me plaît de le faire et je pense que... Ce qui nourrit beaucoup de gens dans ce métier, c'est la passion aussi. C'est de faire un produit qui nous plaît, qu'on boit, qu'on a envie de faire boire. Enfin voilà, c'est ça qui est peut-être le premier truc. Après, c'est vrai, il ne faut pas faire abstraction de la nécessité. Mais je pense qu'il y a la place un peu... En plus, dans cet univers un peu du vin naturel, il y a un peu la place pour tout le monde et pour le petit, pour des choses... familial, affinitaire.
Et en dehors de Jean-Claude, tu fais tout seul?
Ouais, après j'ai des coups de main de copains parce que, et copines, parce que c'est important pour eux aussi d'accompagner ça. Quoi.
Et ce vin des amis, quoi.
Il y a cette idée à la base de faire un vin des amis. Et après, bon... Comme tu as quand même un peu de volume à gérer, il faut aussi le vendre. Et puis parce que quand même, après moi je calcule pas en termes d'heures, en termes de temps passé, etc. Mais c'est du travail quand même. C'est du travail. Donc effectivement, et puis je trouve ça quand même important d'être un petit producteur et de faire valoir ce que tu produis. Quoi. Ça passe aussi par la commercialisation.
Tu les travailles comment, t'es seul?
J'ai un tracteur, mais je griffonne le moins possible. J'essaie de respecter la vie du sol. Je laisse pas mal d'herbe. Alors, quand je vois des voisins, parce que je suis sur plusieurs parcelles où il n'y a pas un pet d'herbe, ça me fait un peu flipper. Mais moi, Et puis bah voilà.
Tu crois qu'ils flippent aussi, ils ont peur que tu leur amènes tout plein de maladies ou je ne sais quoi.
Plein d'herbes.
Tu leur attires je sais pas quel insecte ou...
Ouais ouais.
T'as, bah, t'as des retours comme ça non?
Oui, des fois les discussions sont un peu bizarres, mais voilà, les façons de faire sont pas toujours uniformisées. Mais bon, non, mais c'est des vieilles vignes, elles sont vivantes. On peut trouver un pêcher, on peut trouver un olivier au milieu. Donc voilà, j'essaie d'harmoniser tout ça, quoi, de faire en sorte que bah, le raisin pousse quand même. Soit pas trop parasité par d'autres trucs. Bon, il faut y revenir, hein. Il y a les genêts, il y a les ronces, il y a des machins, mais voilà, je travaille en douceur en fait. J'essaie de travailler en douceur le plus possible.
Le vin de Potlatch,
ouais.
On le trouve où?
Alors j'ai réussi un peu à convaincre certains cavistes, donc on peut le trouver à Marseille notamment. À la Passerelle, qui est un endroit aussi que j'aime bien, parce que j'ai fréquenté beaucoup, qui est chez Mohamed Kabli, qui a une cave, un bar-restaurant et une cave en vin naturel, par exemple. On peut le trouver en Bretagne aussi, parce que j'ai un réseau breton, chez Arnaud Dietrich, à côté de Guingamp, là, à Plougon-Vert, qui distribue sur les marchés avec une formule qui s'appelle Trink, et qui est spécialisée en vin naturel. Voilà, j'essaie un peu à droite, à gauche. Ils trouvent facilement preneur, généralement. Voilà.
Et au domaine?
Ouais, alors au domaine, c'est plutôt les amis qui passent, quoi. Ouais.
Mais on peut te visiter?
Ouais, mais bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Je ne suis pas tellement...
Eh ben non, alors on visite pas.
Non, venez pas.
Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Que ça continue comme ça, et puis voilà, qu'il y ait un peu de pluie cet été.
Ouais. Ça chaud un peu les vignes aussi.
Ouais, bah oui, oui. Les sorties sont belles, mais il faudrait quand même qu'un.
Ça grossisse.
Ça grossisse, ouais. Sinon, ça va rester petit pois.
Voilà. Non, c'est bon, les petits pois aussi.
Ouais, c'est bon.
Et allez, maintenant, on te fait changer deux secondes de casquette encore. Mmh. Mathieu Léonard, t'écris aussi des bouquins. Et alors là, on a L'ivresse des communards, une prophylaxie anti-alcoolique et discours de classe de 1871 à 1914. Je disais tout à l'heure que tu étais journaliste, c'est même un peu historien. Parle-nous de ce bouquin.
Ouais, alors, comme on a pu le constater, il y a eu les 150 ans de la Commune l'année dernière.
Ouais.
Et moi, je m'y intéresse beaucoup depuis très longtemps à cette période-là. Hein.
Pourquoi ?
Parce que bon, j'ai des affinités politiques, en gros, avec les mouvements libertaires, on va le dire comme ça. Et puis... Et puis parce que ça m'a toujours passionné, cette histoire, cette période révolutionnaire là. Et la Commune, je m'y suis intéressé par un angle un peu détourné sur le fait que dans la littérature anti-communarde, versaillaise, pour salir en fait les insurgés parisiens, les fédérés, on les a taxés de tous les noms, on les a bestialisés, on les a traités de fous et on les a traités d'ivrognes. Voilà. Et donc ça correspond aussi à un moment où dans le discours, pas simplement le discours bourgeois réactionnaire, mais aussi dans le discours médical, la question de l'alcool devient centrale en France à la fin du 19e siècle.
Devient tabou.
C'est
le début de...
Ouais, il y a une volonté médicale de contrer l'influence de l'alcool parce que les consommations augmentent, il y a l'industrialisation, c'est plus simplement le vin, la bière, c'est aussi les spiritueux, etc. Et l'absinthe notamment, qui va devenir un gros enjeu... jusqu'à la guerre de 14. Et donc il y a une volonté aussi d'incriminer les classes dangereuses en fait comme un fléau social en fait.
Voilà, c'est carrément les classes populaires qui le prennent droit dans la gueule.
Complètement.
C'est eux qui sont les alcoolos de service.
Parce qu'elles sont les plus nombreuses, les plus tapageuses. Et puis en fait, on essaie de dire que les débordements alcooliques, en fait, que les idées socialistes, révolutionnaires, démocratiques même,
sont dues au
débordement alcoolique. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas eu ces idées de... cette volonté d'égalité, ils n'auraient peut-être pas eu s'ils n'avaient pas eu l'alcool. Donc on incrimine l'alcool dans tous les phénomènes sociaux et révolutionnaires. Et donc à la commune, ça a vraiment été un moment un peu charnière parce que ça s'est concrétisé immédiatement après. La première loi de répression de l'ivresse sur la voie publique, loi nationale, a lieu 3 ans après la Commune, enfin 2 ans, en 73. Donc il y a vraiment une volonté, un premier élan de prophylaxie, à la fois de médecine préventive et aussi de répression en fait des phénomènes alcooliques qui vont pas fonctionner comme l'État ou la bourgeoisie le voudrait, parce que c'est aussi une manne économique incroyable. Enfin, l'alcool, il est quand même assez central, et le vin notamment, dans l'histoire française. C'est quand même le pays du vin, donc il faut qu'ils ménagent un peu l'économie, les bistrotiers.
Voilà, il y a des gros lobbies qui
ouais,
s'y mettent.
Il y a une défense, et puis il y a plusieurs... Après, voilà, j'élargis un peu la problématique jusqu'à la guerre de 14 pour voir comment ce discours infiltre aussi les milieux politiques, le mouvement ouvrier.
Qu'est-ce que tu démontres, tu penses ?
Je démontre une centralité en fait de la question de l'alcool déjà dans la société française, qu'à un moment on a voulu confondre l'histoire de l'alcoolisme avec l'histoire de la question sociale, ce qui n'est évidemment pas le cas, et que en fait ouais, cette problématique là s'insinue en fait pour discipliner les corps et les esprits, surtout des classes vicieuses comme on les appelle à l'époque, les classes dangereuses, donc les classes populaires. Donc j'essaie de montrer comment ce fil-là, au lieu de répondre aux revendications légitimes d'égalité, de bien-être, de fin de l'exploitation, en gros, quoi. On essaie de détourner aussi cette question-là par le fait que, voilà, si on laisse faire, le vice s'instaure, et notamment par rapport à l'alcool. Donc c'est des problématiques qu'on retrouve aussi maintenant, moins sur l'alcool aujourd'hui, même s'il y a toujours une volonté un peu de limiter la consommation, etc. Plus par rapport à la répression des drogues.
Ou à la prévention aux accidents.
Ou à la prévention aux accidents. Alors aujourd'hui, la seule loi qui est vraiment répressive sur l'alcool, c'est au volant, quoi. C'est ça qui prend tout. C'est vraiment la loi de tolérance zéro. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis que c'est un constat en tout cas.
Mais c'est vrai que dans les violences conjugales, l'alcool fait souvent partie de bien la sûr. Donne, et que là, pour le coup, il n'est voilà. pas condamné à la même mesure.
Ouais, ouais, ouais. Alors,
Et est-ce que tu penses que c'est
vrai ? Je n'idéalise rien. Hein,
est-ce que tu penses que, du coup, une fois que tu l'as démontré, est-ce que c'est avéré un petit peu quand même, ou pas, selon toi ?
Alors, c'est le début, le 19e siècle, moi je m'intéresse à cette période-là, c'est le début des statistiques. Donc, il y a aussi le début de la criminologie. Donc tous les biais délinquants, criminels, de folie aussi même, hein, on essaie de mettre l'alcool au cœur de ces questions-là, parce qu'on s'inquiète en fait des phénomènes, et aussi la violence conjugale qui est quand même un sujet qui est laissé un peu en retrait par rapport au reste, mais ça existe aussi. Hein. Et y compris dans les milieux révolutionnaires, anarchistes, etc., on prend conscience aussi d'un phénomène aussi que l'alcool rend pas forcément intelligent, peut exacerber la brutalité, et notamment des hommes sur leurs compagnes, etc. Donc c'est pas un problème simple en fait, hein. Y a pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste montrer comment cette prise de conscience prend racine en fait dans la société, et quelles sont les différentes réponses selon les milieux politiques et sociaux qui y sont apportées, quoi. Mais bon, je pars de la commune où ça a été, en gros, un stéréotype posé sur le prolétariat parisien de l'époque. Quoi. Voilà.
Aujourd'hui, tu penses que l'alcool a la même place qu'au 19e siècle, même si ce n'était qu'à Paris ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelque chose a évolué, a bougé ? Est-ce que la tolérance zéro, est-ce que l'absence de pub, la tolérance zéro au volant, est-ce que ces choses-là on fait bouger quelque chose dans le bon sens selon toi?
Alors moi je
profite que tu es là à nous faire le seul à nous faire un message finalement préventif.
Merci.
Qu'on a
pas
fait depuis le début.
Le faire, nous.
Non, ça nous fait chier.
Bah, je suis pas alcoologue, hein, mais je pense qu'il y a autant, la consommation est aussi importante. Il y a des phénomènes de dépendance, des phénomènes qui sont problématiques. Mais la question est maintenant plus individualisée. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller voir les gens.
On ne considère pas que c'est parce qu'ils viennent de cette classe-là
bien
que forcément.
Sûr, ouais. C'est beaucoup moins politique, c'est beaucoup moins social. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'était juste que c'était vraiment une question qui est posée socialement et politiquement. Hein, et que la résorption de l'alcoolisme était censée résoudre tous les maux de la société. Aujourd'hui, c'est pas je pense que la consommation est la même, en gros, avec des excès, des abus, avec des effets délétères aussi. Hein, et puis avec aussi des recherches d'ivresse plus qualitatives, on va dire. Comme le vin naturel, on va quand même défendre son bistec, mais que voilà, que les choses sont pas envisagées de la même façon, et que de toute façon, il n'y a pas de solution. Le tout répressif est impossible. La prohibition n'a
jamais marché.
Ni pour l'alcool ni pour la drogue. Donc on est dans d'autres configurations où il faut apprendre à être intelligent avec ces produits-là.
Et puis tu parlais d'individualiser un peu plus les démarches d'accompagnement, et sûr, c'est souvent comme ça que c'est plus efficace.
Ouais, sans doute.
Bah Mathieu Léonard, merci.
Merci.
Ce livre, L'ivresse des communards, on le trouve chez Lux.
Ouais, la maison d'édition s'appelle Lux.
Il est comment en librairie. On se le procure? En librairie.
Oui.
Ouais, partout.
Il est distribué, ouais.
Voilà.
Il est même la Mosaïque.
Par exemple, donc on a une librairie chez nous, et puis il est même sur la librairie dont on n'a pas parlé, mais il y a une petite librairie aussi sur ce festival Mi-Ivre, Mi-Raisin. Ah oui, on se quitte en musique.
Ouais, on se quitte en musique. Tiens, qu'est-ce que t'écoutes quand tu bosses, ou quand t'es en cave, ou quand t'es dans ton tracteur?
Je sais pas, j'écoute du Rebetiko, tiens, c'est bien, c'est une musique d'ivresse.
Super, bah merci beaucoup.
Allez, merci à vous.
Salut.
Μοιάζουν νεύρα μαν αμάν δεν τα ακούν.